Merci beaucoup, Patrick. Wow. C'est vrai, je me déplace pas mal, même pendant que Patrick est en train de me présenter, je suis en train d'aller faire les allers-retours. Oh. C'est super ce qu'on est en train de vivre dans cette salle, dans nos vies. Et c'est vrai, on vient de plusieurs nations différentes. On fait des allers-retours dans nos vies aussi. Mais comme disait Patrick, et c'est juste, si c'est d'aller outre-mer, si c'est d'aller au travail, aller à l'école, etc., nous sommes en train toujours de porter le Seigneur avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour ceux qui sont autour de nous, de jour en jour? Et je veux qu'on puisse bien réfléchir là-dessus en tant que responsable, quelqu'un qui porte les responsabilités envers les autres. Aujourd'hui, on utilise bien ce mot français, être leader. Ça, c'est bien quand on capte les termes en anglais, on les met en français. Et le titre de ce message, c'est le leadership, toucher les vies des autres. Ou bien, deuxième titre, on va aller voir pourquoi, ou comment être déprimé en tant que responsable. À nous de choisir. Hein? Mais ça tourne vraiment autour d'un verset biblique que je trouve très profond, qui nous marque tous, Proverbe chapitre 20, verset 7. Proverbe 20, 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Heureux ses enfants après lui. Notre héritage, ça parle d'un héritage. Si on est leader, responsable, et mes amis, ça peut toucher tout le monde ici dans cette pièce. Hein? C'est les parents, si vous êtes parents, vous êtes responsables. Si vous êtes contremaître quelque part, sur un chantier, dans un bureau. Si vous êtes parrain, marraine, ça vous concerne. Si on est enseignant et on a toute une classe devant nous, ça nous touche, ça nous inclut. Si on est chef d'équipe, si on est même frère et sœur aîné dans la famille, on est responsable. On a un rôle, une place dans la vie ou les vies des autres personnes autour de nous. La grande question, c'est, je suis quel type de leader? Je suis quel type de responsable? Et ma vie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va suivre un certain parcours ce matin et on va suivre l'auteur du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste qui veut dire l'enseignant. Et même si l'auteur d'Ecclésiaste n'est pas nommé, je suspecte vraiment fortement que Salomon, qui était l'auteur de Proverbes en grande partie, qui parlait de la beauté d'avoir des enfants qui viennent après nous, est aussi l'auteur d'Ecclésiaste. Mais un livre qui donne, je dirais, vraiment une autre vision, une autre perception des choses, malheureusement coloré par un responsable déchu, si je peux le dire comme ça. Quelqu'un qui est vraiment tombé loin d'où il a commencé. On va suivre ce parcours. Ecclésiaste chapitre 1, versets 3 et 4. Pensons à ce qu'on a déjà entendu. Oh, la joie d'avoir des enfants! Oh, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, un autre vient. Pour ceux qui ont des enfants. On semble avoir perdu juste un peu de joie là. Quelque chose qui n'allait plus. Une génération s'en va, un autre vient. Et quoi d'autre? Verset 11, qui suit un peu plus loin dans le même chapitre. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Whoop-dee-doo, on va tous oublier, tout le monde, tout ce qu'on a fait. Joie pour le monde, c'est... C'était vraiment quelque chose de triste là. Personne ne va se souvenir de ce qu'on fait. Et si seulement Salomon allait savoir que ces mots, 3000 ans plus tard, allaient être lus dans la Bible et qu'on allait parler de lui partout. La personne la plus puissante, riche, sage, etc., du monde entier, le leader, le responsable par excellence. Il dit, mais rien va rester, ça vaut pas la peine. Si seulement il savait. Allons un peu plus loin. Chapitre 1, versets 17-18. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. C'est éphémère, transitoire. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Suivez bien vos cours à l'école, hein? ça vaut la peine, là. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir, ça va vous faire mal, mais continuez à apprendre. Ce n'est pas forcément le bon type d'enseignement qu'on a besoin dans notre vie. Pour aller un peu plus loin, pour avoir soif de vivre, d'accomplir. Dis donc. Je pense à ce chagrin, le plus qu'on sait, le plus qu'on peut s'enfoncer dans la tristesse. Roger Zürcher, tu es là ce matin, je ne te vois pas. Il travaille bien sûr pour cette organisation missionnaire qui aide les gens qui n'ont pas assez à manger. Important. Et je vais vous dire ceci, Roger est bel et bien au courant de tout ce qui manque dans ce monde. Il est au courant de toute la douleur problématique de nourrir les gens, etc. Mais même avec cette connaissance des réalités qui sont là, il se bat, il se donne. Et il dit, non, je ne vais pas baisser les bras, moi. Si les autres sont en train de mourir de faim, ça ne va pas être de ma faute. Personne ne peut me juger pour ça. Et il se donne. Donc, même si on connaît ce qui est difficile, ce qui est pénible dans ce monde, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire. Ça ne vaut pas la peine. Au contraire, on doit avancer, on doit surmonter. Mais le choix est le nôtre. On continue notre petit parcours là. Chapitre 2, versets 15 et 16. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur, que c'est encore une vanité, c'est encore transitoire, c'est pas satisfaisant. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Il y a là une petite touche d'orgueil, même un peu beaucoup, comme on dit dans le canton de Vaud. Oh, si on est sage comme moi, et l'autre ne sait pas grand-chose, quelqu'un à l'extérieur de cette église, bien sûr, pas vous, peu importe, on va tous mourir, donc ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'on peut laisser un héritage à quelqu'un d'autre avec un tel schéma dans notre tête? Je dirais non. Ou bien si on laisse un héritage, ça va être un héritage très marqué par la déprime, par un sentiment de négativité, la défaite écrit en gros là-dessus. Ce n'est pas ça que le Seigneur souhaite et désire. Pas dans nos vies et pas à travers nos vies pour les autres non plus. Ce n'est pas du tout ça. On va un peu plus loin, versets 18, 19 et 20, en chapitre 2. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser à la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Je souligne quelques mots là, vous avez bien suivi. C'est encore la vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Vous savez, les amis, je suis l'expert. Et personne ne peut faire autant bien que moi. Je suis le meilleur, il faut le dire. Oui, je l'admets, même avec toute mon humilité. Et puisque personne ne peut faire mieux ou plus que moi, ou bien au moins je le crois, ça ne vaut pas la peine de laisser les choses entre les mains des autres, parce qu'ils ne vont pas réussir comme moi. Donc, on condamne tout le monde. Désolé, les amis, même avec tous vos talents et vos dons, vous êtes les échecs. En comparaison de moi. Bon, bien sûr, je mets des couches, hein? Beaucoup trop probablement. Je suis désolé, Salomon, si c'est toi qui as écrit le livre. Mais vous voyez un peu, quand on tombe dans un schéma, les pensées telles quelles, on condamne les autres, on les minimise, on voit plus loin, il n'y a plus d'héritage, ou bien pas un bon héritage en tout cas, parce que moi, je suis dans la déprime. Moi, je me suis éloigné de Dieu. Je ne fais plus comme j'aurais dû, comme j'étais appelé à faire, comme j'étais doté par le Seigneur de faire. Et donc, maintenant, c'est trop tard pour tout le monde. Et donc, on tombe dans le désespoir si on voit les choses comme ça. Mais à la racine de ça, je vous dis, il y a de l'orgueil. Et là, ça, c'est un piège à éviter. Il continue. Chapitre 4. Verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'ai essayé de mettre ça en contexte avec qui était Salomon. En tant que roi, bien sûr, entouré par toute une foule de personnes qui voulaient plaire au roi, qui voulaient être nommés à un certain poste, qui voulaient être honorés, reconnus. Et donc, Salomon, tu as vu ce que j'ai fait, hein? C'est mieux que... Salomon, j'ai réussi, mieux que... Et tout le monde qui se battait entre eux pour avoir vraiment la bénédiction, l'encouragement du roi. Donc, Salomon, je suis sûr qu'il a tout vu, Il en avait jusqu'à là et au-delà. Il a vu la mauvaise motivation. Ça, c'est une vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui agit comme ça. Et en plus, ça, c'est le point où on doit enfoncer le clou en disant, « Mes amis, s'il vous plaît, pas de jalousie, pas de compétition, pas de concurrence, mais plutôt de bénir, encourager, soulever les autres, mettre les autres dans une bonne position, leur donner des accolades, des prix, des... Waouh! Ça, c'est plutôt ce qu'on doit voir. La jalousie, oui, c'est vrai. Mauvaise motivation, il y en a dans le monde. Évitons-les. Corrigeons cela. Ça, c'est notre appel de la part du Seigneur. Il continue en verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme des jouissances? C'est encore là une vanité, une chose mauvaise. Encore, mettons cela dans le contexte de l'époque, 3000 ans en arrière, la vie d'un roi qui compte beaucoup sur ses descendants. Il faut que quelqu'un me replace, il faut que mon nom soit continué dans le monde. Et si, par malheur, on n'a pas de descendants physiques, tout est perdu. Ça ne vaut pas la peine de vivre la vie. Donc, le contexte est là. Mais en même temps, on ne travaille pas que pour les gens de notre famille. Il y a plein de monde autour de nous. Le champ est prêt pour la moisson, disait Jésus. Il y a plein d'autres qui ont besoin d'être touchés, qui ont besoin d'être encouragés, bénis, enseignés. Pensons à ces gens aussi. Pas d'être si myope. Ça concerne que moi, que ma famille, même si ma vie et les vies des gens dans ma famille sont bien importantes, oui. Mais il y a plein d'autres personnes. Et nous sommes là pour les toucher aussi, pour être un bon responsable, un bon exemple. Le Seigneur nous appelle à faire cela, à vivre cela pour les autres. Donc, je dis, il y a plus que ça. On va continuer, chapitre 6, verset 3. Ça, c'est la partie, comment être déprimé en tant que responsable. Ça va s'améliorer, vous allez voir. Mais quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, que les jours et les années se multiplieraient, si son âme n'est point rassasiée de bonheur, et si, de plus, il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Mieux d'avoir un enfant mort-né que de ne pas être honoré. C'est un peu sa pensée, là. Et de nouveau, il pense que à lui-même. Comme si on a des grands prix qu'on a gagnés dans la vie, ah là, la vie, ça valait quelque chose. Mais si on n'était pas premier ou les trois premiers, comme dans les Olympiques, etc., ça ne vaut pas la peine. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est vu à travers la perspective de la déprime. Ça, c'est vu à travers le contexte de ce que je vis à ce moment de ma vie, c'est un échec. Je me suis planté. Il est en train de regarder que ça pour le moment. Ne soyons pas égocentriques. Et Je pense, par exemple, je dis assez souvent, ce n'est pas un secret que Pauline et moi, on n'a pas eu les enfants biologiques, et pourtant la maison est pleine. Je dis ça assez souvent. Et je pense au couple Rabassa, Juan et Aïda, qui sont au Pérou. On les a rencontrés à l'Université de Lausanne en 88. Et c'était un parcours assez long avec eux. On était leurs amis, on a partagé petit à petit l'Évangile, la vie en Christ. Ils étaient mais tellement allergiques à l'Église, hein? Je ne vous dis pas. Et pendant 4 ans, on a semé petit à petit, juste comme ça, jusqu'au jour où ils se sont donnés à Jésus. On a eu 5 années vraiment, de bonheur, de les suivre, lire la Bible ensemble, prier ensemble. Après, hop, au Pérou de nouveau. Et je dis, wow, merci Seigneur pour ces enfants spirituels qui ont démarré un programme qui nourrit à peu près 300 enfants chaque samedi, qui donne les cours de la Bible après, le petit déj. Elle qui travaille en tant qu'avocat pour une société des orphelinats un peu partout pour mieux placer les enfants, pour aider les enfants en détresse. Lui qui a essayé de travailler beaucoup dans le domaine politique, qui était même nommé ou bien cherché comme être candidat de vice-président au Pérou, mais à cause du fait qu'il luttait contre les cartels de drogue, la mafia, et qui a échappé de justesse un assassinat, un attentat d'assassinat contre lui. Mais je dis, je suis fier d'eux. Je dis, mais ils nous ont dépassés largement, Linda et moi. Gloire à Dieu. Et que ça se multiplie encore. Et de voir leurs enfants qui suivent le Seigneur tous et qui commencent à vraiment marquer la société dans laquelle ils travaillent. C'est juste phénoménal. Soyons fiers, les amis, de nos descendants. Construisons, bâtissons quelque chose de sûr et solide dans leur vie. Ça vaut la peine. En tout cas, pour le roi Salomon, quand il parle de quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, mais ne voit pas en retour de leur part. Peut-être il a vu ça chez les autres aussi. Avoir beaucoup d'enfants à l'époque, c'était la mode. Hein? Mais lui, champion, hein? 700 concubines, 300 femmes, je suis sûr qu'il avait un paquet. On va en parler un peu plus tard. Chapitre 9, versets 3 et 5. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté? Peut-être l'apôtre Paul a bien réfléchi sur ce verset quand il a écrit Romains, chapitre 3, verset 23, nous sommes tous des pécheurs. Et c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Il y a la vanité, il y a des problèmes dans chacune de nos vies. Ça, c'est vrai. Et verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et encore, il tape sur le clou. Notre mémoire va être oubliée. Tout ce qu'on a fait, ça ne vaut pas la peine. Mais les amis, ce n'est pas vrai. Et puisqu'on est en train de lire Ecclésiaste aujourd'hui, ça en est la preuve. Donc, Salomon était bien déprimé. Il avait des doutes. Il est devenu cynique et je dirais aveuglé aussi. Il ne voyait plus les choses d'une manière juste. Qui va me suivre?
Qui va diriger et gérer les choses que j'ai faites ici-bas? Et ils firent bien. Rien n'est assuré. Tremblons tous. Hein? On peut dire la même chose pour le monde aujourd'hui. Changement climatique, chômage, terrorisme, et j'en passe. Et on a tout le paquet qui nous est présenté chaque soir avec les émissions. Mais on fixe le regard sur quoi et sur qui. Peut-être mieux que ça, c'est qu'est-ce que nous faisons pour faire que ça soit différent. Quelles sont les batailles qu'on choisit pour améliorer le monde? De nouveau, le choix, c'est à nous. Et nous sommes appelés d'être des responsables et d'avoir cette perspective d'héritage. Ça, c'est notre appel. Ça, c'est ce que Dieu veut. Les choses à éviter, l'auteur d'Ecclésiaste avait peur que personne n'allait être si bon que lui en tant que responsable. Évitons l'orgueil à tout prix. Il avait peur que tout pouvait aller s'écrouler après sa mort. Comme si Dieu n'est plus Dieu après que je suis mort. Dieu reste Dieu. Il peut appeler d'autres personnes. Et en plus, la crainte n'est pas une bonne base ou fondement pour nos vies. Évitons la peur. Plaçons plutôt notre foi dans le Seigneur. Le remède pour cela se trouve en Romains chapitre 15, versets 1 à 4. Romains 15, 1 à 4. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification de l'autre. On ne pense pas d'abord à nous-mêmes, mais de quelqu'un d'autre. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, pas le désespoir. Mais l'espérance. Et si Dieu a laissé le livre d'Ecclésiaste dans la Bible, ce n'était pas pour nous déprimer. C'était pour nous instruire, pour apprendre à vivre différemment, pour garder une autre perspective, de ne pas tomber dans la fosse. Non. De changer les choses. Salomon, à ce moment-là, sa vie intérieure était un échec. Il a perdu ce que le Seigneur l'avait confié, ce qui était la sagesse. Et vous savez ce que c'est la sagesse? La sagesse, ce n'est pas une collection de connaissances. Mais la sagesse, c'est de faire du bien avec les connaissances qu'on a. Salomon avait la sagesse. Il savait ce qu'il devait faire. Il arrêtait de le faire. Et voilà la situation dans laquelle il se trouvait. Et des fois aussi, on vise mal. On dit, ah, ce projet-là, ça produit du fruit. Au moins, ça produit des chiffres. On a eu plus de gens sauvés par tel et tel programme en comparaison d'eux. Ou bien au travail, on a gagné plus de choses matérielles, de l'argent, etc., qu'une autre compagnie. Et on a un projet, on a un certain schéma, etc. Ces choses-là, c'est bon, mais je vous dis encore, je souligne le fait que probablement Salomon avait au moins une centaine d'enfants, si pas plusieurs centaines d'enfants. Plus grand n'était pas forcément plus bon. dans son cas-là. Je me demande même comment il a choisi Rehoboam, qu'il a suivi. Est-ce qu'il a choisi Rehoboam parce qu'il était l'aîné ou bien peut-être il va causer le moins de dégâts que les autres? Ou je ne sais pas, parce que Rehoboam n'a pas bien terminé sa vie non plus. Donc, il était vraiment coincé. Trop était pas si bien que ça. S'il avait soigné peut-être quelques-uns de ses enfants un peu mieux, mais il était un homme brisé aussi à la fin de sa vie. Comment est-ce qu'il a vu les choses? Salomon craignait plutôt l'effet domino. Les pièces ont commencé à tomber et maintenant, rien ne pouvait les arrêter. Quand on rate quelque chose, il y a des conséquences, oui. Mais les amis, on peut limiter les dégâts. On peut changer le cap, la direction. On n'est pas condamné de vivre l'échec jusqu'à la fin de nos vies. Avec l'aide du Seigneur, c'est bel et bien possible. Ça demande peut-être un peu d'humilité de notre part, demande pardon. Et Seigneur dirige, corrige. Seigneur fait plus ou fait quelque chose du bien de moi, ce que j'ai touché et maintenant qui est en train de tomber en miettes. Ne minimisons pas Dieu. Quoi apprendre de tout cela? Je dirais surtout numéro un, prions pour un bon retour. On pense à cette parabole que le Seigneur a partagée dans le Nouveau Testament. Jésus a parlé de quatre types de terrain. On sème les semences et il y a certaines semences qui sont complètement dévorées, l'autre qui sont étouffées, l'autre qui se sèche, qui ne donne rien. Mais il y a toujours cette quatrième parcelle. Là où ça donne 30, 60, 100% de plus de ce qu'on a sémé. Est-ce que nous pouvons prier pour cette quatrième parcelle? Seigneur, mets-moi dans cette quatrième parcelle. Ou bien, Seigneur, fais que moi je laboure la parcelle qui va produire autant. Utilise ma vie, change la situation. Prions pour. Deuxième point, prions pour nos disciples qui nous dépassent, qui nous éclipsent, qui font nettement mieux que nous. Ils vont aller plus loin que nous. Ce qui demande beaucoup d'humilité, mais à la fois beaucoup de fierté dans nos descendants et de se réjouir de ce qu'ils vont faire. Je pense toujours à une histoire dans le livre de ma femme, Note d'amour pour Dieu. Elle parle d'une équipe pour une comédie musicale. Linda était à la tête de l'équipe. Elle essaie de aider les gens, animer les rencontres. Elle donnait son avis. Mais des fois, elle a vu que des gens dans l'équipe, c'était nettement meilleur dans tel et tel domaine, tel et tel domaine. Et moi, il écrit les chants beaucoup mieux que moi, etc. Et donc, elle a dit non, je dois les soutenir. Je dois les mettre en avant, leur confier les responsabilités. Et comme ça, l'équipe a bien fonctionné. Il y avait beaucoup moins de concurrence grâce à cela. Et je dis, mais oui, si on est en train de prier pour nos disciples, les bénir, c'est ça qui fait que ça changera les choses. Troisième point, ne sous-estimez jamais votre rôle ou votre présence dans la vie d'un disciple. On ne sait jamais si c'est notre fils, fille biologique, si c'est un camarade de classe, si c'est un camarade au bureau, si c'est un fils, une fille spirituelle, etc. Vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle situation dans la vie. Mais si vous êtes un bon responsable, vous pouvez bénir les gens. Qui sait les résultats? On ne sait pas. Mais on ne le fait pas que pour les bons résultats. Moi, je vais m'investir dans la vie de tel et tel parce que c'est que ça va rapporter beaucoup pour le petit là-bas. Non, merci. Moi, j'étais un petit à un moment donné. Je ne connaissais rien sur Jésus, la Bible. Ma vie, franchement, allait nulle part. Il y avait quelqu'un qui s'est intéressé à moi, qui s'est investi en moi. Aujourd'hui, carrière missionnaire, je dis merci Seigneur. Merci pour l'investissement de mon papa spirituel dans ma vie. Il ne savait pas si ça allait rapporter à quelque chose ou pas. Nous ne le savons pas non plus, mais il faut s'investir. Laissons Dieu être Dieu parmi nous. Laissons Dieu agir. Simplement, toucher les vies des autres, ça veut dire se mettre en contact avec eux, passer du temps avec eux. Les encouragements, les bénédictions, les enseignements. Simplement de dire, ah, allons, on va faire quelque chose, on va vivre quelque chose ensemble. En plus, j'utilise ce petit moment parenthèse-là pour un peu de publicité. Si vous voulez m'accompagner à Paris pour Paris, je t'aime, sortie d'évangélisation pour Jeunesse et Mission pendant 2 semaines, du 15 au 28 juillet. Venez seulement, hein, ça c'est... je vous attends, voilà. Vous pouvez faire la queue là après le culte. Fin de parenthèse. Mais je veux terminer ce message avec un temps de prière. Et je vais demander, est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous qui commencent les stages? N'importe quel stage, pour l'école, pour le travail, etc. Si vous allez vous lancer dans un stage, s'il vous plaît, levez-vous. N'ayez pas peur, on ne va pas vous cibler, regarder avec un mauvais œil. Donc, s'il vous plaît, levez-vous. Mais il y a aussi, est-ce que Baptiste Vouimier est ici dans la congrégation? Bon, ça, c'est bien, une stagiaire qui est là. Peu importe le stage, je vais dire, oui, oui, ça va très, très bien. Parce que peu importe si c'est stage à la cuisine ou je ne sais pas où, vous allez amener le Christ avec vous dans la société. Vous allez être sel et lumière. Et c'est votre moment d'apprendre, mais aussi avec en vue d'être responsable un jour. Baptiste, tu es là? Fais signe là. Florence est là? Si. Il ne faut pas qu'elle soit timide. Florence et Baptiste qui vont partir dans 2 semaines en Inde, voyage missionnaire. Et on a le repas de soutien après le culte aujourd'hui. On a Rachel et Alex Vlad, nos membres qui sont en Roumanie, la maison du Père, pour être source de bénédiction. François, est-ce que tu peux te lever pour les représenter ici parmi nous? Oui, oui. Il va aider les autres à mieux vivre la retraite que lui, vous allez voir. OK. Et Jean-Marc, Elsevier, Jean-Marc, tu es où? Donc, voilà, lève-toi. Je viens de recevoir pendant la nuit une lettre de nouvelles de Chloé, la fille de Jean-Marc et Suzanne, qui raconte là-dedans les merveilles. J'ai prié 3 fois pour les personnes de se guérir. Une fois, guérison instantanée devant mes yeux, 2 fois dans la journée qui se déroulait. Elle donne aussi à manger aux affamés, les SDF autour d'elle. Elle apporte les roses aux prostituées dans la rue. Elle est en train de vivre des choses fantastiques. Merci d'avoir ouvert ta vie, Chloé, aux autres. On a Rebecca Langer qui est au Congo et qui est en train de lutter contre la fléau de Ebola là-bas. Elle a maintes problèmes devant elle chaque jour. On garde le contact par Skype, par mail, etc. Mais je dis merci, Rebecca, pour ce que tu fais. Et voilà, Paul, est-ce que tu peux juste te lever là, juste pour la prière, pour se rappeler de Rebecca? Tu vas être son représentant à ce moment. Donc voilà, on est tous dans le même sac là. C'est C'est bien. Mais est-ce qu'on peut juste se mettre, Baptiste, de ce côté-là, comme ça les gens peuvent se mettre autour de toi. Si on peut juste maintenant se lever autour de ces personnes qui sont debout et étendez nos mains dans leur direction et on va prier pendant une ou deux minutes pour remercier le Seigneur et pour qu'ils soient bien bénis dans ce qu'ils font. OK? Allons-y, prions. Si on peut juste terminer nos prières. Voilà. Mes amis, je veux juste simplement vous dire que d'être responsable, c'est simplement toucher les vies des autres. Donc, gardons toujours cet aspect dans nos vies. Que ma vie compte, que le Seigneur m'a appelé, il m'a donné les talents, oui, mais pour être source de bénédiction pour les autres autour de moi. Gardons nos cœurs loin de la déprime et si on tombe, si on n'est pas parfait, et je pense qu'il n'y a personne ici qui est parfaite, non, non, mais quand c'est le moment où on se trouve au ras des pâquerettes, on s'est planté, etc., il y a toujours le pardon. Il y a toujours le rachat de Jésus-Christ. On peut changer le cap et la direction. Que nous soyons vraiment les bons responsables dans les vies des autres. Amen.